Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur le petit plateau pour un nouveau numéro. Ravi de vous retrouver, vous qui nous écoutez, et ravi de vous retrouver, vous les copains, Romain, Alexis. Ça fait un moment.
Ouais,
Vous allez
salut,
bien?
salut, salut. Ça
Ouais.
va.
Alors, ben, ça y est, on y est, hein. J'ai pas dit un numéro qui concerne quelle course en entrée, mais tout le monde le sait, et puis on le voit un peu avec mon fond d'écran. On y est, on a longtemps attendu. Un épisode consacré au Tour de France. Il y en aura même deux, on peut déjà le dire à nos auditeurs. Je vais commencer avec une petite question. Je sais que depuis le début de saison, on attendait ce Tour de France impatiemment. Là, on approche. Une échelle de 1 à 10, elle est comment votre attente là pour le Tour?
Chez moi, elle augmente. Ouais. À mesure qu'on se rapproche du grand départ de Florence, elle augmente. Et j'ai eu un petit peu peur avec toutes les chutes qui ont émaillé le printemps. Mais là, tout commence à peu près à rentrer dans l'ordre. Et on va peut-être avoir un Tour de France plus équilibré que ce qu'on aurait pu penser au moment de dévoiler le parcours. Avec une chartliste, on va évidemment parler aujourd'hui de dingue. Donc. Là, je suis à 7-8 et ça ne fait que monter.
Oui, parce que moi, c'est toujours comme ça. En fait, j'ai du mal à réaliser avant la veille. Mais pour le coup, ici, avec la préparation de cet épisode, l'analyse du parcours et de la startlist, qui pour moi, j'y reviendrai, vous allez voir, je vais beaucoup parler de ça. Startlist qui est hyper cohérente avec le parcours. Vous allez me dire, c'est logique, mais là, ça m'a vraiment frappé. Vraiment, l'attente et l'excitation montent à fond, d'autant plus que pour la première fois, il me semble, en France en tout cas, je vais aller voir le tour. Il va y avoir l'étape de 3, je pense que Romain aussi, donc on pourra communiquer avec nos abonnés à ce niveau-là.
Et voilà, écoute, toi, ça te donne envie de préparer cet épisode, ça fait monter la hype. J'espère que ceux qui
Voilà.
nous écoutent, ben, vous allez faire monter la hype chez eux aussi à nous écouter. Tous les deux, vous avez déjà prononcé le mot de startlist. Ce que je vous propose pour ce premier épisode, c'est de partir de la startlist. On va un petit peu discuter des gens présents et on va partir un peu dans tous les sens. Mais on va se garder les grands favoris pour le deuxième épisode. Donc, on va zapper de cette startlist ben, les Ineos, les UAE, les Visma, les Soudal et les Bora. Et alors, ben, on va un peu voir tout ce qu'on peut dire à côté sur les autres équipes. Je vous propose de démarrer avec l'équipe en forme, en fait. Decathlon AG2R, l'équipe qui marque cette saison, l'équipe un peu surprise. Ils se présentent avec notamment deux têtes d'affiche, Félix Gall et Sam Bennett. Donc ben, déjà, question pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de ces deux garçons-là, pardon? Et éventuellement d'autres garçons qui seront présents.
Bah, écoute, je vais commencer par Félix Gall. Hein. J'ai envie de dire que j'attends beaucoup de lui, vu ce qu'on a pu voir, notamment l'année dernière, et vu le niveau d'AG2R Decathlon cette année. Par contre, selon moi, ce qu'on a vu de lui en particulier cette année ne nous permet pas, je trouve, d'en faire un favori au top 5 ou voire même au podium. Ça, je n'y crois pas. Par contre, moi, je reste persuadé que ce qui lui convient, plus c'est dur, plus ça lui convient. Et que donc, les dernières étapes, surtout le dernier week-end, l'étape 19 et l'étape 20 sont les deux étapes qui lui conviendront le mieux. Et moi, ce que j'imagine, mais alors là, on est complètement dans l'hypothèse, dans la supposition, ce que j'imagine, c'est un Félix Gall qui perd pas mal de temps dans les 9 premières étapes. Là, on y reviendra, les 9 premières étapes, ça fait vraiment un bloc de début de Tour de France très important. Je l'imagine perdre du temps sur le chrono, éventuellement sur l'étape des graviers et même sur les deux premières étapes qui demandent pas mal de punch. Et après, je l'imagine plutôt très fort en fin de Tour de France, surtout la toute toute fin, où soit on peut envisager une remontada pour un beau classement, soit qu'il aille chercher les victoires d'étape. Mais donc c'est surtout en deuxième partie de Tour de France que je le vois briller.
C'est vrai que je pense que c'est un des, je ne vais pas dire favoris, mais en tous les cas, un des coureurs qu'on attend dans le top 10 final à Paris. Maintenant, on sait que la confirmation, c'est souvent plus difficile finalement que l'éclosion. Et donc, l'année passée, il s'est retrouvé un petit peu bombardé par hasard, quelque part, leader de son équipe. Ce sera, cette fois-ci, il a la pression dès le départ et il a. Je veux dire, seul, hein, il n'y a pas un Ben O'Connor pour aller jouer le général avec lui. Donc voilà, ce sera à voir. Mais effectivement, je rejoins Alexis, sa première partie de saison jusqu'ici n'a pas montré qu'il était dans une phase ascendante par rapport à l'année passée. Mais ça reste un très bon Félix Gall, il faudra compter sur lui, clairement.
Ok, c'est marrant parce que du coup, vous n'évoquez aucun des deux Sam Bennett parce que
Pas
Sam
encore.
Bennett ne
On
doit
a...
plus être évoqué ou.
Ben parce que Félix Gall doit être évoqué en priorité dans cette équipe, ça c'est clair. Parce qu'on a revu Sam Bennett cette année. On a revu, mais je pense pas qu'on peut parler de résurrection parce qu'on n'a pas revu le grand Sam Bennett non plus. Hein. Il n'a pas battu les tout tout meilleurs sprinteurs du monde. Maintenant, son avantage, c'est que parmi les tout tout meilleurs sprinteurs du monde, il n'y en aura pas tant que ça, notamment Jonathan Milan qui ne sera pas là et éventuellement Tim Merlier non plus. On y reviendra, on n'est pas encore sûr là-dessus. Mais donc voilà, il n'y aura pas tant de sprinteurs au-dessus de lui que ça. Mais je veux dire la même chose que pour tout un tas d'autres sprinteurs qu'on va évoquer aujourd'hui, vu le nombre de sprints qu'il y a, auxquels on peut s'attendre en tout cas, et vu la grande incertitude du sport et du sprint en particulier, ben pourquoi pas? On peut l'envisager faire des beaux petits résultats, voir une réponse, voir une victoire, pardon, si il arrive quelque chose à un Philipse ou à un Pedersen, ce qu'on n'espère pas. Mais de là à l'envisager favori pour les sprints, nous, on l'a vraiment pas du tout.
Je suis d'accord. Si on gomme les 4 jours de Dunkerque du calendrier, on n'en parle même pas. Et d'ailleurs, il n'est pas là. Hein, donc voilà, j'ai aucune attente par rapport à Sam Bennett. Et tout résultat positif sera forcément une, je pas dire une surprise, mais en tous les cas, on ne pouvait pas s'y attendre il y a encore de ça un gros mois. Si j'avais dû citer un deuxième coureur chez eux, j'aurais pris Paul Lapeyrat qui a montré de très très belles dispositions, notamment sur les Ardennaises, donc des profils assez cassés et cassants. Et donc ce serait intéressant de le voir évoluer sur tout ce qui concerne les étapes promises aux baroudeurs. Donc voilà. Quelqu'un que je serais très attentif, surtout que je ne vois pas Paul, ou je me trompe peut-être, mais je vois pas Paul Lapeyrat jouer le rôle de lieutenant en montagne pour un Félix Gall, par exemple. Félix Gall qui va être un peu esseulé à ce niveau-là, d'ailleurs. Hein, au niveau de la montagne, il n'y a pas, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a pas de gars qui peuvent vraiment épauler l'Autrichien dans la haute montagne. Donc, c'est aussi, pour revenir sur l'Autrichien, c'est aussi ça qui fait que je pense que le top 10 est envisageable, mais que ce sera quand même très compliqué pour lui.
Oui, un homme solide, mais alors peut-être pas pour la très haute montagne, effectivement. Il y a toujours Armirail, hein, qui est un super équipier. Maintenant, effectivement, ça ne va pas permettre non plus d'aller hyper haut. Tu évoques Paul Lapeyrat. En fait, je viens d'apprendre, enfin, j'ai vu aujourd'hui que Paul Lapeyrat était apparu sur la start list, parce que sinon, moi, j'allais évoquer Godon. Mais je vois Godon plus en sprinter, peut-être remplaçant si Bennett n'est pas présent, et Lapeyrat, comme tu le dis, en baroudeur. Je pense qu'ils vont avoir. Une petite différence, même s'ils ont des profils finalement pas si éloignés que ça l'un de l'autre. Ok, on a parlé sprinter, bah, je vous propose de passer à la deuxième équipe, qui est l'équipe Alpecin. Bon, bah, qui dit sprinter, dit Alpecin, dit Jasper Philipsen, évidemment. Bah, Alpecin, il y a aussi deux noms qui ressortent pour du lot, Jasper Philipsen et Mathieu Van Der Poel. J'ai des questions pour chacun d'entre eux. On va rester d'abord sur le sprint. Alexis, tu disais, bah, vu le nombre de possibilités, etc. Jasper Philipsen, d'abord, première question, est-ce qu'il va être le roi des sprints cette année encore? Et tant qu'on y est, combien d'étapes peuvent se terminer au sprint selon toi?
Bon, à coup sûr, même si rien n'est jamais sûr, hein, ils peuvent se faire piéger, mais à coup sûr, 5 ou 6 sprints massifs, on va dire 6, et deux autres possibilités, mais avec... l'éventualité de voir des baroudeurs ou des punchers venir mettre le bazar et empêcher un sprint massif, ou à tout le moins faire reculer certains sprinteurs. Mais Philipsen fera partie de ces sprinteurs qui, a priori, ne reculeront pas et qui pourront sprinter même si la course a été un petit peu durcie. Donc je pense qu'il aura beaucoup de possibilités d'aller s'illustrer. Je pense que Merlier absent, on va partir du principe qu'il le sera, même si on n'en est pas encore sûr, Merlier absent sera lui le plus rapide. Et que donc, en effet, on peut imaginer une razzia comme l'année dernière, même si je pense qu'il est un petit peu moins rapide que l'année dernière, de par sa préparation plutôt axée sur les classiques.
Oui, je suis assez d'accord, mais Romain, il est moins rapide. Je suis assez d'accord avec Alexis, mais la concurrence sera pas énorme. Donc, est-ce que toi aussi, tu attends une razzia? Qui peut rivaliser avec Philipsen?
Tim
Oui, mais
Merlier.
dans les présents.
C'est vrai que, alors, une saison n'est pas l'autre, évidemment, et on sait que Jasper Philipsen vise notamment les classiques, et donc il a des préparations qui ne sont pas forcément axées totalement sur le Tour de France. J'ai un peu regardé avant cette émission la saison de Philipsen. Et si on excepte effectivement sur Tirreno, qui était sa première vraie course où il est battu 2 fois par Milan, chaque sprint que Philipsen a joué pour la gagne et qu'il ne gagne pas, sont systématiquement gagnés par Tim Merlier. Donc, je ne sais pas si Philipsen est moins rapide que l'année passée. Je pense simplement que Merlier est au top, là où peut-être Philipsen l'était l'année passée. Donc, Voilà, compte tenu de la concurrence actuellement, moi j'aurais tendance à dire que Philipsen est le roi du sprint sur ce Tour de France. Et la seule chose qui pourrait me faire changer d'avis, c'est une sélection in extremis de Tim Merlier. Je ne peux pas imaginer que si Tim Merlier décroche par exemple le titre de champion de Belgique en amont du Tour, je ne peux pas imaginer qu'on se passe de lui. Surtout que, et on aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième émission consacrée au Tour de France, mais l'équipe de Remco, elle est loin d'être solide. En tout cas, elle est loin d'avoir montré que tout le monde était au top physiquement. Mais là, je m'avance un peu.
Je vois que tu es pressé, Romain.
Voilà.
Non, ben, moi, vous savez, Tim Merlier, hein, c'est parce que je pars du principe qu'il ne sera pas là et j'espère me tromper. Et depuis même très tôt dans la saison, je disais que je voulais qu'il soit là, mais encore plus vu ses résultats. Moi, je répète que Tim Merlier est le meilleur sprinteur du monde en 2024 devant Philipsen, effectivement. Alors, est-ce que Philipsen moins vite, est-ce que Merlier a passé un palier? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un rapport de force qui s'est à tout le moins, à minima, équilibré, quoi. Ok, deuxième nom, Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, d'ailleurs, qui peut aider Philipsen, hein, soit dit en passant,
Bien
comme il l'a
sûr.
très bien fait l'année passée. J'ai deux questions sur Mathieu Philipsen, voyez, le
Pas mal.
binôme est parfait. Pas mal, lapsus révélateur. Sur Mathieu Van Der Poel, alors, une question d'ordre général, qu'attendre de Mathieu Van Der Poel sur ce tour? Est-ce que c'est encore un Tour de France en préparation pour d'autres objectifs? Et alors, une question plus précise, est-ce que Mathieu Van Der Poel peut être le premier maillot jaune de ce Tour de France?
Bah, ce sera le meilleur poisson pilote de ce Tour de France, je pense. Je vois pas Mathieu Van Der Poel faire autre chose que mener le lead pour Philipsen. Et on l'a vu bah, encore l'année passée qu'il est phénoménal, évidemment, dans ce type de rôle. Et je ne pense pas qu'il ira au bout de ce tour. Il est là clairement pour préparer les Jeux Olympiques et les prochaines échéances. Donc, voilà. On a déjà dit dans ce petit plateau, c'est dommage de ne pas le voir plus essayer. Est-ce que ce sera, pour répondre à une question, le premier maillot jaune? Il y a des chances que, enfin, en tout cas, il a effectivement des raisons d'espérer, mais j'ai l'impression que le sommet de la dernière côte est un peu loin pour lui de l'arrivée et que donc Mathieu Van Der Poel. Je ne le vois pas arriver en solitaire. Il le fera peut-être, hein, mais je ne le vois pas arriver en solitaire à Rimini. Et donc, s'il arrive dans un petit groupe, j'ai l'impression qu'on peut avoir une petite surprise pour ces premières étapes.
Ouais, ben moi du coup, je pense en effet que Van Der Poel ne finira pas ce tour et qu'on ne doit pas s'attendre à un Van Der Poel du mois d'avril. Fort malheureusement, vous savez que je le regrette, c'est un peu le dernier cheval de bataille que je peux encore mener contre Alexandre Van Der Poel, c'est qu'il n'a pas, selon moi, un Tour de France dans son histoire, dans son héritage. Il n'a pas un Tour de France digne de son nom, même s'il a déjà eu quelques belles performances. Je pense qu'un Van Der Poel doit marquer l'histoire du Tour de France plus que ce qu'il ne l'a fait à l'heure actuelle. Mais ça peut venir, hein. Et deuxième question, je ne le vois pas en jaune, soit pour les raisons que Romain invoque, soit pour une toute autre raison, ce sera soit l'un soit l'autre selon moi, c'est que je peux tout à fait imaginer UAE, et pour moi il devrait le faire, tout faire péter sur cette deuxième étape, première étape, pardon. On y reviendra dans le deuxième épisode, mais pour moi ils doivent le faire, et s'ils le font, je ne vois pas Van Der Poel suivre, tout simplement.
Je propose de passer à l'équipe suivante. C'est Arkea, BNB Hotel. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, parce que moi, j'ai rien à dire sur Arkea. Est-ce que c'est une équipe qui va vous intéresser quand même? Est-ce que vous allez suivre un coureur ou l'autre? Je dis, j'ai rien à dire, je suis un peu dur. Si vraiment je dois trouver quelque chose, je suivrai quand même ce que peut faire Kevin Vauclain. Mais voilà, c'est parce qu'il faut dire quelque chose d'Arkea. Pour être tout à fait franc, au départ, je ne vais pas suivre cette équipe.
Non, ben voilà, moi non plus, mais je pense que les fans de Vauclain ou de Démare, d'ailleurs c'est les deux seuls noms inscrits sur la starlist à l'heure actuelle, auront de quoi les suivre, parce que c'est des coureurs intéressants tous les deux, surtout peut-être encore plus Vauclain maintenant, mais voilà, à titre personnel, non, ce sera pas l'équipe sur laquelle je vais me focaliser.
Je suis d'accord, c'est l'équipe qui doit animer les échappées matinales et peut-être faire un coup d'éclat. Après, de nouveau, Vauquelin, effectivement, c'est quelqu'un qu'on a assez vite porté au nu et les premières étapes, ce sont des étapes qui peuvent convenir à Vauquelin.
Il
Donc ça
préfère
pourrait être une
vibrer.
surprise, hein, mais voilà. Mais sinon, effectivement, ce n'est pas forcément l'équipe que j'aurais pour laquelle j'aurais le plus de passion, en tous les cas, sur ce début de Tour de France.
Une autre équipe qui ne me passionne, moi, en tout cas personnellement, jamais beaucoup, c'est Astana. Mais j'ai quand même une question pour vous. Quand je vois l'équipe, on mobilise pas mal de monde autour de Cavendish. D'un côté, je comprends, parce qu'il y a quand même un truc historique à aller décrocher. D'un autre, est-ce que les chances de Cavendish sont tellement élevées? J'aimerais votre avis. Est-ce que c'est pas un peu sacrifier trop d'équipes, je veux dire trop de monde autour de Cavendish?
Je suis mitigé. Je suis mitigé parce que d'un côté, oui, dans la mesure où Cavendish a clairement ses meilleures années derrière. Après, on l'a vu l'année passée sur le sprint de Bordeaux. On ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. Mais c'est clair que ce sera compliqué. Après, sincèrement, qu'est-ce que Astana pouvait mettre d'autre? Oui, un Lutsenko qui manifestement en fera partie. Mais c'est clair que voilà, tout mettre sur une victoire qui pourrait faire entrer Cavendish dans l'histoire, c'est très bien, mais c'est ce que voilà, les mots parlent d'eux-mêmes. Ce sera faire entrer Cavendish dans l'histoire, pas Astana. Voilà, je suis content de voir que chez Vinokourov, on est très altruiste et que donc on met tout en œuvre pour offrir une victoire aux sprinteurs anglais.
Ouais,
Ouais.
je suis assez d'accord, si ce n'est que, voilà, moi, comme pareil que pour Bennett, hein, il y a beaucoup de possibilités et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le sport, donc ça reste une possibilité. Et quand je vois l'effectif plutôt d'Astana, hein, tous les coureurs qu'ils ont dans l'équipe, ben, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent et que, très honnêtement, je comprends, parce que honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et surtout, quand j'imagine le jackpot médiatique et financier que ça peut être, hein, avec ce fameux record et avec Netflix et avec d'autres, je me dis, ben, oui, ils ont raison de réussir, parce que c'est soit rien, parce que honnêtement, je pense qu'Astana ne peut rien espérer d'un Tour de France, donc soit rien du tout, soit de la possibilité d'avoir un jackpot médiatique. Donc pourquoi pas?
Je suis d'accord. En fait, ma question, je l'ai posée parce qu'au départ, je me dis, bah, c'est quand même beaucoup pour Cavendish. Et puis après, quand tu regardes le field des sprinteurs, on se dit aussi, mais je ne lui souhaite pas. Philipsen, il lui arrive quelque chose d'entrée de jeu. Mais
Bah, tout à
qui
fait.
domine tellement? Est-ce que Cavendish, là, alors, à ce moment-là, tu sors Philipsen du jeu? Je ne dis pas que Cavendish est le deuxième meilleur sprinteur, hein, du plateau, mais ça devient plus impossible.
Ouais, tout
Et
à
donc, on ne
fait.
peut pas se dire, Philipsen va, parce que c'est le meilleur sprinteur, rafler tous les sprints. Donc, comme tu dis, il y a des possibilités, il y en aura. Et oui, en fait, je vous rejoins, il n'y avait rien d'autre à mettre, donc pourquoi pas finalement.
Ouais.
Ok.
Simplement, voilà, le train, juste pour terminer, le
Ouais.
train, on dit souvent qu'un train, c'est composé de quatre coureurs, donc trois en plus de sprinteurs. Là, ici, on a Morkov, ancien meilleur passant pilote du monde, mais qui se fait aussi plus tout jeune, et Boll et Ballerini. Moi, je voulais juste dire, je me demande s'il n'y a pas un peu un double emploi entre Boll et Ballerini. Je vois les deux comme l'avant-dernier, et pas comme rampe de lancement en tout premier lieu, hein, et je me demande même s'il n'y a pas un sous-emploi. Est-ce que Ballerini ne devrait pas aussi avoir un rôle un peu plus libre sur certaines étapes où Cavendish n'arrivera pas à suivre pour des étapes un petit peu plus accidentées, par exemple.
Il aura peut-être, il a montré des belles choses quand même depuis qu'il est revenu à la compétition. Donc pourquoi pas, effectivement. Pour le train, je dis peut-être une bêtise, je ne suis pas un grand spécialiste du sprint, mais il me semble qu'ils ont pas mal inversé les positions déjà durant cette saison. Ils ont essayé différentes choses. On verra un peu comment ils vont mettre ça en place, effectivement. Je passe à une équipe qui me plaît beaucoup plus. Alors, sur cette compo-ci, parce que ce n'est pas d'habitude une des équipes que je préfère, c'est la Bahreïn. Bahreïn Victorious, alors là, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vois pour l'instant sur la start list, pardon, Mohorič, Puls, Bilbao, Boos, Buitrago, Haig, Wright et Arndt. C'est très, très, très costaud. J'espère, moi, que ça va flaguer dans tous les sens. J'ose espérer qu'ils ne vont pas trop se mettre sur un général, pas que sur ça, en tout cas.
C'est une équipe sur le papier très intéressante, avec des gars capables de briller partout, sauf sur le podium, j'ai envie de dire final. Mais sinon, voilà, il y a des noms qu'on a déjà vus sur le Tour de France par le passé, évidemment, que ce soit pour des coureurs plutôt de style baroudeur, hein, on pense évidemment à Matej Mohoric, pour des coureurs plutôt de style grimpeur, on pense à un Peyo Bilbao, voire à Wout Poels. On a vu aussi qu'un Santiago Buitrago est quelqu'un qui peut faire de très très belles choses aussi dès que la route s'élève. Et pour couronner le tout, vous avez un Phil Bohaus qui, sans faire de bruit, est quelqu'un qui va aller faire ses petites places sur les sprints massifs. Donc, c'est une équipe qu'on risque de voir, si pas à l'offensive, en tous les cas bien placée chaque jour. Je reviens un instant sur Peyo Bilbao. bon, qui commence à avoir un certain âge, mais qui reste une valeur sûre. L'année passée, on se souvient, magnifique étape sur, magnifique victoire, pardon, sur une étape a priori plutôt effectivement pour les baroudeurs, mais qui le replace un peu au classement général et au final un top 10 au général. Voilà, je crois que c'est une équipe qu'on va souvent voir à l'offensive, qu'on verra quand la route s'élève dans les sprints, un peu partout. Et je pense que les supporters de l'équipe vont être assez intéressés par cette compo.
Ouais, ben voilà, je pourrais répéter mot pour mot ce que Romain a dit, en fait, hein, c'est ce que je comptais dire. Et j'en viens à ce que je disais au tout début d'émission. C'est une équipe très complète et très polyvalente. Et justement, on a un Tour de France qui peut couronner, qui peut voir briller tout type de coureur. Et justement, c'est ce que Bahreïn a fait. Ils ont amené tout type de coureur, si ce n'est des coureurs de contre-la-montre. Et donc, en effet, j'attends Bahreïn offensif sur quasiment toutes les étapes. Et comme l'année passée, ça pourrait marcher avec une, voire plusieurs victoires. Même si sur aucun profil, ils ont le meilleur, ils ont des bons profils partout. Enfin, ils ont des bons coureurs sur tous les profils plutôt. Donc voilà, je les attends au tournant et je les imagine très offensifs, très présents.
Ben, une équipe qui a aussi des coureurs offensifs et sans vouloir leur faire offense d'un niveau certainement moindre que la Bahreïn, hein, mais c'est la Cofidis.
Ouais, tout à fait.
Si je voulais être dur, je dirais que la Cofidis m'inspire pas plus que Arkéa, mais en fait j'aime bien les mecs chez Cofidis, donc j'aime voilà Cocard, oui ni plus ni moins. J'aime beaucoup Guillaume Martin, j'aime beaucoup Axel Zagle, j'aime beaucoup Geschke, j'aime beaucoup Izaguirre, j'aime beaucoup Errata. Alors voilà, je les aime beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des grandes choses, mais je pense que c'est une équipe. Franchement, j'ai quand même confiance à ce qu'on les voit. Peut-être pas au résultat brut, mais en les voir essayer des choses, je crois que ça va arriver et qu'ils vont pas mal se montrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, les noms que tu as dit. En effet, on peut dire ça comme Bahreïn, mais en niveau en dessous, tous les noms que tu as cités, Geschke, Errada, Cocard, Zingle, c'est des coureurs dont on entend tout le temps parler sur un grand tour. Enfin, ou dont on peut imaginer qu'on entendra parler. Donc voilà, c'est pas la première équipe, voilà, c'est pas celle dont on va parler en premier ici, qui va le plus nous inspirer, mais c'est une équipe qu'on verra quasiment tous les jours aussi.
Ouais. Avec une réserve pour Zingle, hein, puisque son transfert éventuel vers Visma pourrait apparemment, si j'ai bien compris la presse hexagonale, lui coûter sa place dans la sélection de Cofidis. Mais sinon, oui, c'est une équipe qui, malgré tout, sans qu'on l'attende, gagne chaque année sa petite étape. Et on se rappelle de Victor Lafay l'année passée. Pourquoi pas, effectivement, un Jesús Herrada ou un Ioannis Aguirre qui avait gagné lui aussi, je ne sais plus si l'année passée ou il y a 2 ans, mais c'est des profils de nouveau, de baroudeurs qui peuvent surprendre et sans qu'on les attende, sont toujours bien présents. La question que je me pose par rapport à Cofidis, c'est Guillaume Martin. Est-ce que Guillaume Martin va, comme chaque année, jouer un fond de top 10, voire un début de top 15, hein, parce que c'est enfin un fond de top 15, pardon, voire peut-être la place de premier français, hein, c'est toujours aussi le genre de. Parce qu'on sait que pour une équipe comme Cofidis, c'est quelque chose qui compte quand même. Hein. Ou est-ce que, pour une fois, on ne verrait pas Guillaume Martin jouer les étapes et jouer justement ce profil baroudeur, etc. J'adorerais voir Guillaume Martin remporter une étape du Tour de France. Il ne le fera jamais s'il joue son classement général pour la 2e place à égalité avec Godu et Bardet. Donc voilà, c'est ça vraiment la grosse interrogation que j'ai par rapport à la Cofidis et la grosse attente que j'ai de voir effectivement Martin jouer justement ce rôle de baroudeur qu'on ne lui connaît pas vraiment, mais qui réussit bien Cofidis sur le Tour justement.
Mais qu'on se comprenne bien, parce que tu dis de baroudeur, moi je trouve que c'est quelqu'un qui essaye souvent. Mais qu'on se comprenne bien, j'imagine que tu veux dire quelqu'un qui ne jouerait que les étapes. En fait, c'est quelqu'un qui essaye et qui se replace et qui donc use quand même de l'énergie les autres jours aussi pour ne pas lâcher du temps. Donc je pense que pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est de dire, bon, cette fois-ci, le général, je me relève totalement
C'est
et c'est
ça.
vraiment que focus étape. Voilà. Alors, je connais pas du tout le garçon. Et quand je lis ses livres, j'ai l'impression que c'est pas dans sa philosophie de se relever et de perdre du temps volontairement. Ouais, voilà, c'est l'impression que j'ai. Je peux passer totalement à côté, mais c'est l'impression. Voilà, c'est pas l'impression que j'ai, même si ça pourrait être sympa. Et je pense que s'il prenait ce rôle-là, il pourrait en gagner une, hein, certainement. Bon, une équipe où ils savent ce que c'est d'être baroudeur et une équipe ô combien sexy, c'est Education First. Education First, est-ce que. Je ne fais pas une erreur en l'évoquant dans ce premier numéro. On a dit les grands favoris, on les évoquera dans le deuxième numéro. Sous-entendu, est-ce que je me trompe? Est-ce que Carapaz n'est pas un très grand favori du tour?
Non, je ne pense pas. Bah,
Ok.
il y a un certain temps, j'aurais dit oui, mais non, pour moi, c'est un bon nom, c'est un nom gonflant qui peut faire un bon résultat, mais voilà, on va parler des très très gros favoris, ne fût-ce que les favoris médiatiques. Je pense qu'on a raison de ne pas le mettre à l'heure actuelle. D'autant plus qu'il est tombé et qu'il a eu une commotion sur le Tour de Suisse, si je ne m'abuse.
Ok, Romain, tu es d'accord avec ça?
Oui, il est parfois présenté, et j'avoue que moi-même, j'en avais fait un des outsiders l'année passée, mais donc il est parfois présenté comme celui qui peut battre les fantastiques, comme on l'appelle de plus en plus souvent. Mais effectivement, il faudra des concours de circonstances. Et ici, vu le nombre de mecs qui sont au départ et qui peuvent viser un top 5, il faudra des concours de circonstances pour que Carapaz, pas seulement gagne, mais même soit sur le podium, voire le top 5. Donc je vais finalement redire pour Carapaz ce que je viens de dire pour Martin. J'aimerais voir Richard Carapaz se défaire du classement général et jouer les étapes. On l'avait vu dans ce rôle-là sur la Vuelta il y a de ça 2 ou 3 ans. La Vuelta remportée, si je ne m'abuse, par Remco Evenepoel, donc en 2022. Il avait été phénoménal, il avait animé les étapes, et là, par contre, effectivement, c'est un pur grimpeur qui est explosif et qui amène vraiment du spectacle. Donc voilà, j'aimerais voir Richa Kerapa s'attaquer sur chaque étape. Voilà.
Et pour une fois, on va être en désaccord parce que. Alors, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est trop facile pour Carapaz de faire ça. Je trouve que Carapaz, il a assez de potentiel que pour quand même viser un classement général. Après, ça reste toujours une énigme, hein, Carapaz, parce que Carapaz, hors grand tour, dans tout le reste de la saison, tu le vois jamais vraiment. Par-ci, par-là, il fait parfois des petits résultats, mais il faut jamais s'alarmer du fait qu'on ne le voit pas avant. Par contre, c'est plus embêtant ce que Alexis a souligné, évidemment, ce qui s'est passé sur le Tour de Suisse. Mais voilà, je sais pas si on peut dire Carapaz, oui, il faudrait un fameux concours aux circonstances pour qu'il fasse top 5. Comment on en arrive là?
Par
Je veux
manque de
dire,
garantie au fil des mois, quoi.
oui, bien sûr, mais sur le potentiel du gain, je sais pas comment, parce que top 5, ça, ben, voilà, je sais pas s'il y a
Non, mais
4
c'est
mecs
juste
assurément
que.
devant lui, quoi. Enfin, 5 mecs, donc du coup, assurément devant lui pour pas le mettre dans le top 5.
C'est juste que
On
la
en
startlist,
parlera
là,
des mecs, mais.
la startlist, c'est vachement impressionnante cette année. Et enfin, moi, je ne serais pas forcément étonné de le voir cinquième. C'est juste que. Là, on s'était quand même dit entre nous qu'on allait faire un épisode sur les favoris, ceux que les bookmakers vont dire, tiens, lui, il peut gagner le Tour de France. Et Carapaz, ce n'est pas le cas, il ne gagnera pas ce Tour de
Oui.
France. Tu vois. Mais pour revenir aussi sur ce que disait Romain, bah ouais, ça peut être super chouette, mais IF n'a pas été le chercher pour ça. IF a quand même fait un gros pari avec Carapaz, c'est quand même un gros contrat, on le voit notamment dans la série Netflix, ils attendent beaucoup plus de lui. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que même avant de parler de méformes et de chute, on voit quand même sur la sélection IF, on voit que ils se disent, bah, tiens, tu te débrouilles tout seul en montagne. Ils ne lui donnent pas d'axe
C'est ça.
grimpeur autour de lui. Mais j'ai quand même envie de dire, et j'avais envie de le dire pour Félix Gall, mais je le gardais pour ici. Pour moi, ils ont raison. Ils ont raison pour plusieurs aspects. Déjà, parce qu'il y aura plusieurs gros blocs autour de plusieurs gros leaders qui vont faire le train en montagne. Et en montagne, ce sera un petit peu chacun pour soi. Et je me dis que si on a un Carapaz à 100% qui craque en montagne, bah, peu importe le pôle grimpeur qu'on met autour de lui, il aura craqué avant lui. Donc de toute façon, il sera tout seul. Et de toute façon, il ne va pas aller gagner son Tour de France. Il pourra aller chercher un beau classement, mais pas une victoire finale. Et donc, quitte à faire un beau classement, mais sans victoire finale, sans devoir rouler pour lui, et qu'il le fasse avec ou sans pôle grimpeur, bah, autant mettre une équipe totalement indépendante de lui sur le côté et aller chercher des victoires d'étape. Ce qu'ils font, parce que comme pour Bahreïn, ils ont un profil extrêmement hétérogène qui peut aller chercher des victoires partout, même au sprint avec Vandenberg.
Oui, mais justement, j'allais y venir, tu fais bien de le souligner. Il n'est pas aussi Carapaz, c'est pas que lui individuellement, on ne met pas dans le deuxième épisode parce qu'il n'y a pas de bloc, comme on va voir dans le deuxième épisode. Il n'y a pas du tout un bloc, tu le soulignes très bien. Et j'allais justement effectivement le dire, Romain, si Carapaz ne peut pas attaquer tous les jours, ils ont de quoi faire chez IF, hein, je pense.
Ouais, bien
Avec des
sûr.
Bettiol, des Benili, tu as souligné Vandenberg au sprint, et on a
Paulès.
Paulès qui revient bien en forme. Ouais, je pense qu'eux, ils peuvent nous valoir des bons moments, hein.
Oui. Disons que si tu veux effectivement résumer, je pense, en tout cas ma pensée, peut-être notre pensée, c'est que peut-être que Carapaz, si le mec joue le classement général, il est peut-être le favori après les favoris. Avec peut-être un Godu, même si on va y revenir dans un instant. Mais voilà, mais c'est pour ça. Moi, mon souhait, c'est qu'il ne fasse pas le général, qu'il fasse les étapes, et il ira quand même chercher, grâce à ces étapes, il ira chercher une 10e, 9e place. Est-ce que ce sera nettement moins bien d'aller chercher une 7e, voire une 6e place s'il joue le favori? C'est ça que je trouve un peu dommage. Par contre, c'est clairement un gars qui peut, je dis, aller gagner 2 étapes, 3 étapes, aller chercher le maillot à pois. Hein. C'est vraiment là le genre de profil, parce que il a ce petit punch en haut des cols qui lui permet au sprint d'aller faire les points. Donc voilà, j'aimerais vraiment voir Carapaz jouer par exemple ce maillot à pois, ça clairement. Et on sait que c'est un maillot que IF aime bien. On l'a vu avec Paul Ess l'année passée notamment. On l'a vu avec Magnus Cort il y a 2 ans. Donc c'est un
Pourquoi
maillot.
pas?
C'est un maillot dont beaucoup 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 d'équipes se désintéressent malheureusement. Mais c'est quand même une belle possibilité, peut-être la plus facile quand on voit les monstres qui sont là pour le maillot jaune et le monstre. On en a parlé déjà ici en début d'émission pour le maillot vert. Ben, peut-être que le maillot à pois, c'est peut-être la façon la plus facile entre guillemets ou moins difficile, bah, d'être sur le podium final à Paris.
Tu viens d'évoquer dans les favoris
Hein.
des favoris David Godu. J'arrive justement à la Groupama. Alors moi j'avais une question qui va totalement à contresens de ce que tu viens de dire avec favori derrière les favoris. Moi je trouve Godu en net recul dans la hiérarchie et j'allais vous demander si vous êtes d'accord avec moi.
Oui.
Oui.
Parce que c'est un Tour de France très relevé en plus. Donc voilà, et ce que je viens de dire sur IF, j'ai envie de le dire pour Groupama, ils auraient totalement raison de ne pas faire de pôle montagne autour de lui, ça sert à rien. Qu'on le laisse se débrouiller tout seul. Bon, même si je dis ça, mais en 2022, Madouas lui a été d'une grande aide, mais qu'on le laisse se débrouiller et qu'on aille chercher des étapes un peu ailleurs, quoi. Parce que de toute façon, je suis désolé, hein, le Tour de France est beaucoup plus relevé en termes de classement général qu'en 2022, il ne fera pas quatrième le Tour de France. Donc voilà. Pour moi, il devrait pas faire de pôle montagne autour de lui.
Est-ce que, Romain, tu penses que ce n'est que ça, le fait qu'il y ait un niveau plus relevé, ou même simplement Gaudu recule dans la hiérarchie de manière globale?
Je pense qu'il faut. Je fais partie de ces gens qui estiment que le vélo, ça se court avec les jambes, mais aussi avec la tête. Et je ne connais pas du tout le garçon. J'ai déjà eu l'occasion de le voir plusieurs fois sur Twitch. Il n'a pas sa langue en poche. Il a l'air d'être quelqu'un, en tous les cas, de bien dans ses baskets. Mais on a clairement eu un tournant. Il fait un super Tour de France il y a 2 ans, en terminant 4e. Les gens le voient comme étant la superstar française en devenir, puisque quand je dis les gens, je ne parle pas des suiveurs au quotidien, mais ceux qui se cantonnent finalement au Tour de France et qui cherchaient le nouveau Pinot, qui cherchaient même le nouveau Hinault, etc. Et dans la foulée de cette fabuleuse 4e place, on met sur le tracé du Tour de France suivant un parcours qui lui va comme un gant. Et donc on se dit, c'est pas le gagner, mais c'est la chance ou jamais pour Godu de faire podium. Et là, il se loupe un peu. Il se loupe un peu, je pense, peut-être qu'il n'est pas le niveau. Je pense qu'il y a une pression qu'on nous, peut-être en tant que Belges, on ne mesure pas, mais pour un champion français sur le Tour de France, il doit y avoir une pression de dingue. Et depuis ce demi-échec, parce que finalement, 9e, c'est pas mal, hein, le Tour de France quand même, mais depuis ce demi-échec, il n'y est plus, il est plus dedans. Il a du mal à rentrer dans les top 10 sur les courses d'une semaine. Donc oui, sur papier, les résultats, il y a une régression. Dans sa façon de courir, c'est plus un diesel. Hein. C'est plus quelqu'un qui va pas attaquer comme un fou tout le temps. Et il se retrouve là au milieu d'une génération où ça flingue de tous côtés. Donc c'est pas un cyclisme qui lui convient particulièrement bien. Et donc je pense qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi Gaudu fait de moins bons résultats, en tout cas de plein de facteurs autres que simplement bah, il est un peu moins bon, un peu moins fort. Et puis, je parlais de la pression, même en interne, hein, quand on voit des Lenny Martinez arriver, voire sur d'autres terrains des Romain Grégoire, voire même des Valentin Madouas, bah, Gaudu n'est pas cette superstar dans son équipe qu'il aurait peut-être rêvé d'être. Et on se rappelle tous de l'incident entre guillemets avec Arnaud Démare l'année passée. Je pense qu'au final, toute cette histoire ne lui a fait plus, enfin, lui a fait plus de tort que de bien. Ça lui a mis une pression de dingue il a eu du mal à digérer. Et tout de suite, il y a une nouvelle génération qui éclot derrière. Et donc, on le remet déjà, on le remise un peu au placard. Ça doit être dur pour lui. J'aimerais pas être à sa place. Ça reste un très bon coureur. Mais effectivement, à l'heure actuelle, je serais surpris de voir Gaudu meilleur français de ce tour. Je pense qu'il y a d'autres gars qui pourraient le devancer, au classement général, parmi les Français qui sont inscrits sur cette startlist.
Pour moi, Gaudu, c'est typiquement ce que tu as dit pour. Ben, on va continuer dans la même chose. Guillaume Martin. Bon, moi, je n'étais pas d'accord avec toi pour Carapace, mais à un autre niveau. Mais justement, ça colle encore plus avec Guillaume Martin. Là, je crois que c'est un gars, Gaudu, qui devrait jouer des étapes. Alors, ça n'arrivera pas jusqu'à ce qu'il perde du temps. Il ne va pas partir avec cet objectif-là. La Groupama ne peut pas non plus se permettre d'aller dire ben, nous, on ne joue pas du tout le général. Je pense que ce n'est pas possible d'aller sur le tour et de dire ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui pourrait aller chercher des étapes. Dans cette équipe, bah, tu as parlé du renouveau, Romain Grégoire, je vois qu'il est sur la startlist. Bah, le voilà, hein, le renouveau, en tout cas, pas lui seul, mais un des fers de lance de cette nouvelle génération française. Est-ce que vous voyez Romain Grégoire ou d'autres dans cette équipe bah, réaliser des grandes choses? Moi, je vous avoue, vous le savez, j'en parle souvent sur le petit plateau, j'adore Romain Grégoire, donc je mise tout sur lui. Et voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Alexis, tu évoquais Madouas, mais justement, Madouas quoi? Madouas en soutien de Gaudu, ce qui ne sert strictement enfin, à rien. Si, il peut l'aider, mais pour quel résultat au final? Ou Madouas, qui est quand même un bon coureur, bah, vas-y, Valentin, joue ta carte.
Aucune idée. Je l'imagine quand même en soutien de Gaudu. Et pour Romain Grégoire, j'ai juste envie de dire que j'espère que lui aura un rôle libre, parce qu'il a, il a de quoi, il a de quoi faire sur ce tour. Et ce serait un peu du gâchis de le voir rouler pour. Je suis dur, hein, mais ce serait du gâchis de le voir rouler pour un top 10 de Gaudu.
Je trouve que tu as raison.
Oui, attention aussi que de nouveau, cette histoire de pression, il ne faut pas mettre Grégoire en avant trop vite non plus et peut-être lui laisser, bon, il a fait déjà un tour d'Espagne l'année passée, mais le laisser faire un tour de France un peu dans l'ombre d'un Gaudu, justement, ça peut
Ouais,
être pas
c'est
mal.
vrai.
Et donc lui donner un rôle un peu hybride de soutenir Gaudu en montagne tout en ayant sa propre carte sur certaines étapes, ça peut être intéressant. Et un Madouas, pareil. Je trouve qu'un Madouas avait montré de très belles choses il y a 2-3 ans. Notamment sur le Tour de France. Et puis, on a voulu en faire un capitaine de route, et c'est pas un capitaine de route. Il s'est un peu enfermé là-dedans. Depuis, on ne retrouve plus le Madouas d'il y a 2-3 ans. Donc, c'est une équipe qui, effectivement, pourrait effectivement jouer les coups étape par étape. Ça pourrait être intéressant. Mais de nouveau, je te rejoins totalement, Damien. Je pense que chez Groupama, encore plus que chez Cofidis, on voudra être la première équipe française au classement général.
On a alors une autre équipe qui devrait animer la course, mais qui roule un peu moins bien, je vais dire, depuis plusieurs mois. C'est Intermarché. Alors, roule un peu moins bien, ça veut dire ça tourne un peu moins bien. Moi, je ne sais pas à quoi m'attendre chez Intermarché. Donc, on a une vraie tête d'affiche. Ça reste la méga star de l'équipe, c'est Guirmay. Pour le reste, bah oui, on aura Mentios qui va jouer son fond de top 15, le Guillaume Martin d'Intermarché. Hein. Et je dis ça en plus parce que ça se ressemble un peu finalement. Hein.
Et Martin vient à l'Intermarché à la base, hein. On se
Et
rappelle
Martin vient
chez qui on l'époque.
d'Intermarché. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette équipe. On n'a pas encore la composition complète. On a une base et on a des places restantes avec toute une liste de candidats. Est-ce qu'on en attend quelque chose?
C'est difficile de se prononcer en fait sur cette équipe hein, parce que la présélection, pardon, est énorme. Je veux dire, là, quand on regarde la présélection, ben, y a quasiment toute la moitié de l'équipe qui est mentionnée. Après, je me répète, mais ils ont des coureurs intéressants à peu près tous les niveaux qui peuvent un petit peu aller s'illustrer partout. Mais celui qui se rapproche le plus des meilleurs dans son propre profil, c'est en effet sûrement Guirmay. Pour le reste, on les verra certainement, mais ce sera dur pour moi s'ils se retrouvent face à leurs semblables de chez IF ou de chez Bahreïn, justement, comme je disais tout à l'heure. Sur tel ou sur tel terrain, sera dur d'aller les battre. Donc voilà, c'est dur. Les voir présents, oui. Voir gagner une étape, non.
Je suis assez d'accord avec toi. Quand tu dis on va les voir, mais oui, les voir battre des mecs leur semblables, comme tu dis, en face à face, c'est compliqué. Romain, je te voyais dodeliner de la tête
Ouais.
pendant qu'Alexis parlait de Bini, donc ça nous intéresse d'entendre ton avis, évidemment.
Oui, je vous rejoins. C'est une équipe qu'on va voir, qu'on va peut-être pas voir gagner par contre. Mais s'il y a un type qui pourrait se rapprocher de la victoire, plutôt qu'un Guirmay, moi j'aurais plutôt tendance à pointer Gerben Tyson, qui sur un sprint est quelqu'un qu'on n'attend jamais, mais qui pourrait venir un peu créer la surprise. Un Guirmay, il est observé, il est regardé, et puis Guirmay ne retrouve pas son niveau, hein, faut le dire, depuis sa, c'est même pas sa chute, depuis son bouchon dans l'œil sur le Giro, on l'a plus vu à un aussi haut niveau qu'il l'était sur ce Giro, je trouve. Et donc, du coup, ben voilà, ça laisse la place aussi pour d'autres, hein, des Hugo Page, évidemment, ou des Adrien Petit sont des gens qui peuvent s'illustrer dans d'autres niveaux, sur d'autres types de profils. Mais voilà, de nouveau, je ne sais pas ce qu'il faut attendre, honnêtement, d'Intermarché. Je leur souhaite de remporter enfin leur étape, mais ça va être compliqué. Par contre, c'est une évidence, on les verra à l'avant, parce que c'est une équipe qui a ça dans le sang.
Je suis un peu déçu, moi, de Tyson, tu vois. J'aurais tenu ton discours l'année passée, mais cette année, j'y crois nettement moins. Et en plus, j'ai un peu du mal à voir la cohabitation, Guirmay et Tyson.
C'est ça le problème.
Je suis pas sûr que les deux vont être là. Il y a quelque chose. Enfin, ça me semble bizarre. Je sais pas si
Tout à
Tyson
fait.
est dans la certitude. Je crois pas. Guirmay, je crois qu'on est sûr. Tyson, je pense que c'est encore dans les mecs à décider. C'est drôle, comme parce que même sur du plat, Guirmay, il sprint. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut en penser. Ok, je vous propose de passer à une autre équipe. C'est un gros bloc quand même. Là, par contre, c'est Lidl Trek. Alors, je sais plus ce que j'avais noté sur ma feuille, mais Romain m'a fait changer mon angle d'attaque parce que j'ai une question qui me brûle les lèvres. Romain a dit, on a l'immense favori du maillot vert, Jasper Philipsen. Est-ce que Mats Pedersen n'est pas un favori du maillot vert?
Ah, si, oui, s'il le vise, ça m'a fait tilter aussi. S'il le vise, ouais. Bah, imagine une bagarre entre les deux pour le maillot vert. Ils le veulent tous les deux, ce serait magnifique. Mais je sais pas. C'est une question de volonté. Est-ce que Pedersen le veut? Je ne sais pas. Mais ouais, s'il le veut, pour moi, non seulement il est fort au sprint, mais il y a plusieurs étapes où lui peut venir foutre le bazar. Et puis même le faire à la Van Aert 2022, il peut le faire aussi. Donc oui, s'il le vise, ça peut devenir un favori.
Okay. Est-ce que vous avez noté justement des étapes où il peut reprendre des points à Philipsen? Parce que ce que j'aime bien, quand tu dis il est bon au sprint, de nouveau on va revenir avec le plateau des sprinteurs. C'est pas mal pour lui parce que il
Tout à
peut
fait.
aller faire des 2-3e places au sprint, même sur des sprints plats, il peut faire des très belles places et donc pas concéder trop de terrain à Philipsen. Et je vous avoue que moi j'ai pas checké s'il y avait des étapes où il pouvait faire la différence. Est-ce que ça pourrait peut-être être au détriment des baroudeurs d'ailleurs, malheureusement pour eux, si la Lidl veut embrayer pour amener le maillot vert à Pedersen.
Ça va être compliqué selon moi parce que ce sera sans doute mettre beaucoup d'énergie pour aller chercher des points sur une étape. Et il n'a pas une équipe. Allez, je veux dire par là que si Pedersen prend une échappée, ils sont quand même beaucoup derrière chez Alpecin pour rouler. Parce que chez Alpecin, il n'y a que ça comme objectif. Chez Lidl Trek, je suppose qu'on va en parler dans un instant, il y a d'autres atouts évidemment que Mats Pedersen. Après, c'est clair, un Mats Pedersen, je le vois beaucoup plus dans un profil à la Peter Sagan de belles années, c'est-à-dire un gars qui allait remporter ce maillot vert, non pas, ça l'aidait évidemment, mais non pas dans les sprints massifs, mais dans tous les sprints intermédiaires. Et on sait que Pedersen peut le faire. On sait que Pedersen peut très bien partir sur l'étape du Galibier, dans l'échappée, pour aller prendre le sprint. Donc oui, pour moi, Philipsen reste le favori pour le maillot vert parce que dans les sprints massifs où on donne quand même énormément de points, il va prendre une avance. Mais c'est clair que s'il y a un type qui, pour moi, peut venir lui chatouiller les chevilles, c'est lui, c'est Mats Pedersen. Mais de nouveau, Mats Pedersen l'année passée, oui, cette année-ci, dans une équipe où il y a plus de cartouches finalement chez Lidl, j'ai un peu plus de doute. Mais c'est clair que c'est un coureur qu'il faudra suivre pour le maillot vert, certainement.
Ouais. Et juste petit point, ça mériterait analyse plus approfondie, mais sur un petit regard rapide des sprints intermédiaires, il y a quand même assez peu d'endroits où Pedersen, malheureusement, peut aller lâcher Philipsen parce qu'il y a bah, simplement sur le fait qu'ils sont souvent placés assez tôt dans l'étape. Donc
Mais
voilà.
ce serait intéressant de voir effectivement Pedersen partir dans les échappées sur un peu partout
Ouais.
et de voir la réaction d'un Philipsen, de voir si le Belge suivrait. On l'a vu, je pense, une fois en toute fin de tour l'année passée de mémoire. On me semble qu'une fois il prend une échappée où ils sont 12-13 coureurs et Philipsen est dedans. Mais sinon, c'est quelqu'un qui plutôt se repose, entre guillemets, sur le travail de son équipe et sur le fait de pouvoir revenir sur les échappées en fin d'étape. C'est vrai que la seconde partie du tour, souvent, est plus propice aux échappées, hein. C'est plus difficile de contrôler les échappées en seconde partie de tour. Et donc, voilà, si Pedersen n'est pas trop loin, il sera un vrai danger pour Philipsen. Mais j'ai peur que Philipsen prenne trop d'avance en première partie de tour.
Mais t'as raison quand tu dis de toute façon Alpecin, ils peuvent tout sacrifier sur le même le par exemple pour les sprints intermédiaires, ils peuvent tout jeter hein, sur certaines étapes, ils peuvent tout jeter jusqu'au sprint intermédiaire et basta. C'est pour ça que j'imaginais pas spécialement. Alors oui, il peut prendre les échappées évidemment, mais moi je voyais ça plus dans l'autre sens, d'avoir une équipe, l'équipe Lidl qui vise pour faire sauter Philipsen sur des parcours difficiles. J'ai pas assez regardé le parcours pour voir si ça peut arriver. Et je dois deviner, effectivement, j'entends ce que tu dis. Le problème, c'est qu'ils vont peut-être chasser beaucoup de choses en même temps, Lidl. Et donc, nous y voilà, justement, sur les différentes choses qui pourraient chasser. On a vu Altao, qui a encore été pris dans une chute. Et Alexis, tu m'as dit, moi, je n'avais pas vu passer l'info, qu'en plus, il a eu le Covid, il était vraiment malade sur le Dauphiné. Vous savez, moi, je fondais beaucoup d'espoir à Altao. Et en plus, quand j'ai vu son chrono, je me dis, ah, oh, c'est pas dégueu, son chrono. Donc, j'étais content. Et puis, finalement, patatras. Je pense que du coup, enfin moi je vais même pas du tout l'attendre pour le classement général, c'est peut-être un peu dur, on verra, je ne sais pas comment on peut se remettre. Par contre, il y en a un qui a fait une forte impression, c'est Chicone. Tu m'as dit qu'il est rentré malade aussi, mais lui par contre, sur le
La
Dauphiné, il a
grippe.
quand même été très 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 bon. Alors on va mettre la maladie de côté. Est-ce que, avec ce qu'il a montré sur le Dauphiné, qu'est-ce qu'il doit faire, Chicone? Il doit viser un classement, il doit viser des étapes, tout en visant le maillot de la montagne comme l'année passée. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce mec-là? Enfin, j'imagine votre réponse. Si un Carapaz romain, il doit jouer les étapes, j'imagine. Parce que Chicone, finalement, je ne vais pas dire il a le profil de Carapaz, mais un tout petit peu, peut-être un tout petit peu moins bon grimpeur, j'en sais rien. Il a le punch, tu parlais du punch de Carapaz. Chicone, il l'a aussi pour aller chercher. Donc, je pense que tu vas me dire qu'il doit jouer des étapes, mais je t'écoute quand même.
Oui, pour moi, enfin, il doit jouer les étapes et le maillot à poids. C'est le profil, effectivement, type du coureur qui sait grimper, qui a le petit punch. La question, c'est de voir où il sera au général après la première semaine et voir si ça va. Parce que Lidl va jouer, on vient de le dire, sur plein de tableaux différents. Et donc, a priori, on peut imaginer que s'il arrive sur le Tour de France avec Tao à côté de lui, que sur le papier ou dans les têtes de la direction sportive de l'équipe, c'était pour faire de Tao le leader et faire de Ciccone le chasseur d'étape ou du maillot à pois. Ici, avec l'état de Tao, on ne sait pas trop bien. Donc il faudra voir. Je pense aussi que, alors c'est un détail, mais je pense que Ciccone va aussi faire la Vuelta, si je ne m'abuse. Et donc ça pourrait éventuellement aussi l'encourager peut-être à faire un Tour de France pour aller chasser les étapes, dans la mesure où il faut être tout à fait honnête, à la pédale, face à tous les ogres, s'il fait le général, c'est pour aller chercher de nouveau un fond de top 10 au mieux, je pense, alors qu'il peut aller chercher peut-être un top 5 sur la Vuelta. Et donc, pour toutes ces raisons, moi, je verrais plutôt Chicone et vraiment jouer la gagne chaque jour sur les étapes de baroudeur, de montagne, essayer tous les jours, prendre des points et quand ça marche pas, c'est pas grave, il se relève. Mon point de vue.
Par contre, on n'a pas encore beaucoup d'infos sur le reste de la compo. Je ne sais pas, je vais quand même vous poser la question au cas où vous auriez vu passer une info que je n'ai pas vue. Skelmose, c'est sûr que non, c'est sûr que oui, on ne sait pas.
En début de saison, il était prévu que Skelmoz joue le général sur la Vuelta.
Ok.
C'était le. Mais c'est vrai
C'est
qu'ils
encore le
ont.
cas.
Ouais. Et ils ont une équipe qui aurait pu effectivement jouer un top 5 sur chaque grand tour, hein, avec vraiment des leaders qui sont capables d'aller chatouiller comme ça les grands favoris. Mais voilà, de mémoire, c'était ça qui était prévu pour Skelmoz.
Ceci dit, étant donné que pour moi, avoir le Covid maintenant ou la semaine dernière, c'est rédhibitoire, enfin éliminatoire pour un classement général, et que Skelmose vient de faire troisième du Tour de Suisse, je ne serais pas étonné qu'il vienne à la rescousse sur le Tour de France, même si j'ai aucune info dessus.
Ok, bah, s'il y vient, mon avis à moi, c'est que il doit quand même pas venir pour un classement. C'est juste une corde en plus pour faire le
Oui.
show pour l'équipe, où il peut être hyper intéressant, évidemment. Ok, je vous propose de passer à la Movistar. Alors, la Movistar, ils m'ont pas déplu sur le Giro. On a vu, enfin, on a vu Rubio, il fait un, on l'a pas tellement vu finalement, mais il fait un très bon Giro. Et pour autant, on n'a pas tout mis sur le classement général. On voyait des mecs tenter leur chance, notamment Pelayo Sanchez qui a été assez brillant. Ma question, elle est simple. Enric Mas, enfin, pas l'éternel leader. Valverde était là il n'y a pas tellement longtemps, mais le successeur de Valverde, qui vise toujours un bon classement, mais qui n'y arrive pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on met tout autour de lui? Ou est-ce que il doit se débrouiller, pas tout seul, hein, mais qu'on octroie des libertés à quelques coureurs de la Movistar?
Il n'y a pas grand-chose à mettre autour de lui. Très sincèrement, chez Movistar, c'est un peu léger si on veut épauler Mas qui pourrait jouer au leader face à des Pogacar, des Vingegaard et autres.
Oui, mais regarde, en dehors du niveau, Cavagna, c'est un gars qui peut te protéger sur le plat. Est-ce que Cavagna reste avec Mas ou est-ce que Cavagna peut jouer des coups sur des étapes moyennement vallonnées? Mulberger et Formolo, c'est des mecs dans les échappées, pour, même bon, Formolo peut-être un peu plus, ça peut être bon. Mais est-ce que Formolo peut y aller ou est-ce qu'il doit rester avec Enric Mas? C'est un peu dans ce sens-là ma question.
Ben, la tactique Movistar, on a l'habitude de la porter au nu pour son côté fantasque, donc on peut jamais être sûr de rien avec eux. Ils ont quand même, après, ils ont quand même d'une part la culture entre guillemets du classement général. Et puis, j'avoue que j'ai pas été vérifié avant cet épisode. Je sais pas où ils en sont dans le classement UCI, mais aller chercher une 6e ou une 7e place, voire une 4e ou une 5e place, c'est quand même rapporter un paquet de points qu'ils ne vont de toute façon pas chercher sur les autres courses. Donc ils sont un peu obligés et un peu contraints de faire ça. Et donc je pense qu'un Mas va. De toute façon, un Mas ne sait faire que ça. Il ne sait faire que suivre et tenir le plus longtemps possible. Je pense que j'ai vu Mas attaquer une fois en 1987. Mais.
C'est
Non,
dur.
non, non, je
Moi, il m'a
suis
vendu
dur
du
avec
rêve
lui.
sur une fin de saison, il n'y a pas tellement longtemps, où je me suis dit le nouveau Mas est arrivé. Et puis bon, voilà.
Oui, non, je pense qu'il prépare toute sa saison pour être en forme autour de Lombardie. Voilà, c'est pas que je n'aime pas Eric Mas, c'est que je suis toujours hyper déçu de la course qu'il fait par rapport aux ambitions qu'on veut nous vendre le concernant et par rapport à son tempérament soi-disant de leader, de chef. Donc je trouve que ça colle jamais et que. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Si Mas, j'ai dit tantôt que Carapaz est pour moi le favori, la 6e place, c'est-à-dire le favori après tous les grands favoris. Et de nouveau, dans les gros blocs qu'on abordera lors du prochain épisode, ils sont parfois 2, 3, 4 à pouvoir rentrer dans le top 5. Hein. Donc, c'est pour ça qu'un Mas, intrinsèquement, oui, c'est un mec qui légitimement peut viser un top 5. Mais. L'histoire récente de la Movistar et de Mas me porte à croire que c'est peu envisageable, c'est peu réaliste. Et donc, est-ce qu'un Mas va jouer les victoires d'étape, va jouer les baroudeurs? Jamais de la vie, absolument pas. Donc, voilà, je sais pas. Honnêtement, cette équipe de Movistar ne m'inspire absolument pas, en fait.
Alexis, est-ce qu'on salue, après je te donne la parole, mais est-ce qu'on en profite pour saluer Titouan, JB, Vélofuté, qui va peut-être arrêter de nous regarder là maintenant, après ce que Romain vient de
Ouais,
dire.
justement, je suis content que Romain ait pris la parole en premier, comme ça, parce que moi, je voulais un petit peu évaluer à quel point est-ce que je pouvais aller, je pouvais me laisser aller sur Mas. Non, écoute, Mas, ça fait partie un petit peu de ces noms qui viennent gonfler le prestige et de la course au top 5, etc. Mais voilà, elle est loin, l'époque où justement tous nos amis et d'autres voulaient nous faire croire que Mas pouvait battre les meilleurs dans un classement général. J'y crois pas du tout. Ça fait un beau candidat au top 5 et je pense que je sous-estime peut-être un petit peu l'importance des lieutenants sur un tour comme celui-là. Mais pour moi, ils pourraient totalement s'en passer, surtout que ils seront tous lâchés dès le premier coup de pédale d'Almeida. Donc voilà.
Je vois vers quoi on va sur le deuxième épisode. On va passer à une autre équipe du coup qui est la Team DSM. Alors au moment où j'ai pris mes notes, je ne sais pas, on peut peut-être aller voir en direct sur le net s'il y a des noms qui ont été ajoutés, mais moi je n'avais que trois noms. Ok,
Pas
bon
mal.
voilà, je vais même pas voir. Fabio Jakobsen, Romain Bardet, Warren Barguil. Ramenez-moi quelques années en arrière, c'est la Dream Team. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore en attendre? Ça vous parle encore, vous, ces trois noms-là?
Non, si ce n'est Bardet éventuellement, mais
Ah, ben, je suis d'accord, c'est ce que j'aurais dit.
j'ai beaucoup parlé de Bardet avant le Giro. Au final, voilà, j'ai changé d'avis en cours de Giro, donc je sais pas si je vais me prononcer cette fois-ci. Voilà, j'espère qu'il va pas viser un classement général. Je l'ai dit l'inverse avant le Giro. Mais voilà, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire sur DSM, malheureusement.
Mais j'allais te le dire, Bardet, je pense qu'ici, il y a peut-être une chance qu'il ne vise pas le classement. Et
Ouais.
ça peut, du coup, ça pourrait être sympa, quoi. Ça peut être
Ben oui,
sympa à
c'est sûr.
suivre. OK.
C'est peut-être son dernier Tour de France.
Ouais.
Et donc, peut-être que le fait de passer en tête sur 4-5 étapes dans l'école, c'est peut-être quelque chose qui viserait et donc qui serait difficile à mettre en place avec une chasse au classement général. Maintenant, de nouveau, Romain Bardet, c'est clairement le gars qui peut faire premier français au classement général. Après, il court dans une équipe néerlandaise, donc c'est quelque chose qui est moins intéressant, moins important à leurs yeux. Mais c'est clairement le gars que j'aurais envie de voir parce que c'est Bardet, que c'est un coureur que j'apprends à apprécier. C'est comme le bon vin, il aime le vin, donc c'est pas pour rien que je le dis, mais c'est comme le bon vin. Il se bonifie avec l'âge et c'est de plus en plus agréable, je trouve, de le voir courir. Et il y a quand même, au-delà de Bardet, effectivement, Jakobsen, voilà, Barguil, chouette type, et pour aller chercher peut-être des échappées, mais de nouveau, je ne le vois pas dans un général. Par contre, là, je parle un peu dans le vide, mais tous des gars comme Max Poul, Oscar Only, tous les petits jeunes de chez eux, ce serait intéressant de les voir. On n'a pas la start list là, en tout cas complète. Donc c'est voilà, je dis, on parle dans le vide, mais c'est peut-être des gens qui pourraient se révéler sur un Tour de France ici, dénués de pression en ce qui les concerne, parce que la pression sera justement sur Bardet-Barguil au niveau des médias, peut-être sur un Jakobsen pour les victoires d'étape. Donc c'est peut-être l'idéal, le moment opportun pour les lancer dans la grande bagarre.
Ouais, Only qui sort d'un beau Tour de
Bien
Suisse en
sûr.
plus, hein. Donc oui, c'est
À
vrai que
fond.
lui, s'il vient, il peut peut-être être intéressant pour des coups. Un truc que je veux dire sur Romain Bardet, tu disais Romain, on apprend à l'apprécier. S'il vous plaît, tous ceux qui relaient, tous ceux qui vont aller sur la route, je vous demande pas de faire un virage Bardet, mais putain, donnez ce qu'il mérite quoi, à Romain Bardet. Moi, je l'ai déjà dit plein de fois, enfin plein de fois, plusieurs fois ici sur le petit plateau. Je trouve qu'il souffre de la comparaison avec Pinot au niveau populaire et j'espère vraiment qu'on va faire la fête à Romain Bardet si c'est son dernier tour, mais qu'on lui donne des émotions quoi au gars parce qu'il en donne beaucoup aussi lui sur le vélo.
Ouais.
C'est un peu ce qu'on disait, ben justement, il souffrait de la comparaison parce que Pinot c'est un gars émotion. Oui, c'est pas le même type d'émotion, mais moi je trouve que Romain Bardet, il envoie des trucs quand même.
Ouais,
Donc voilà,
je suis
j'espère
d'accord.
que ça va bien se passer pour lui. Je vous propose de passer à l'équipe suivante, Team Jayco. Team Jayco, je sais pas ce que vous allez en penser. Alors moi c'est toujours l'équipe énigme. Je sais jamais ce que je dois penser de Groenewegen. Je sais pas c'est quoi son niveau. Des fois je me dis oui, il est toujours bon, des fois pas du tout. Je sais jamais ce que je dois attendre. Évidemment de Yates, Yates c'est la craquante ou pas. Je sais jamais si Matthews. Je suis déçu ou bah c'est beau ce qu'il a fait. Enfin, voilà, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut attendre. Je ne sais pas si vous avez des attentes particulières pour cette équipe.
Sur papier, cette équipe est quand même loin d'être dégueulasse, avec bah, un Groenewegen qui a du mal à passer un pont, mais sur une étape toute plate, c'est peut-être le plus rapide derrière Philipsen. Et donc, il y a une ouverture, enfin, en tout cas, peut-être une possibilité de victoire via le Néerlandais. Michael Matthews, on l'a encore vu cette année-ci en début de saison, rappelez-vous, deuxième sur Milan-San Remo, troisième ou deuxième, et puis déclassé sous le Tour des Flandres. Donc, il est loin d'être fini. Et de nouveau, c'est quelqu'un qui, dans les échappées, plus que les sprints massifs, mais peut aller chercher quelque chose. Et puis, Simon Yates, on l'a toujours raillé en disant que c'était le plus fort s'il n'avait pas sa craquante à chaque grand tour. Ben, l'année passée, il n'a pas sa craquante, il fait quatrième. Pas loin du podium. Voilà, je trouve que c'est une équipe intéressante. Je ne dis pas que c'est une équipe qui sera peut-être passionnante à voir, mais c'est une équipe qui sera intéressante.
Alexis Simon Yates avant sa signature chez Visma. On est attentif pour voir ce que ça donne.
Oui, clairement. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il a dit. Hein. Groenewegen, j'ai envie de dire, même constat que pour Bennett et Cavendish, mais avec le fait qu'il est un petit peu plus rapide qu'eux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités qu'il y a bien une fois où il pourra battre Philipsen, on ne sait jamais. Matthews, il va gagner l'étape 8, vous pouvez le noter. Et Yates, oui, Yates, il va faire un top 10. Je ne le vois pas faire comme l'année dernière, honnêtement, parce que je pense que la start list est plus relevée cette année. Et que donc, on verra qu'en fait, Yates, non, Yates n'est pas quatrième de Tour de France, il va faire 6-7e. Mais oui, bah écoute, voilà, c'est une équipe intéressante, avec des chouettes noms à suivre de toute façon et qui peuvent tous nous réserver des surprises. Mais comme toi, c'est vrai qu'il n'y a jamais aucune certitude, même si là j'en ai lancé des certitudes, au fond, il n'y en a pas.
Ok. Je t'écoutais en même temps, mais je suis donc allé voir l'étape 8 que Michael Matthews va remporter. Je mettrai le profil quand on fera le montage, comme ça nos auditeurs pourront voir sur quelle étape Michael Matthews s'imposera. Je vous propose de passer déjà à l'équipe suivante. Israël Premier Tech. Israël Premier Tech, c'est une équipe que je trouve intéressante dans sa métamorphose actuelle. Alors pour l'instant, je vois Williams, Derek Guy, Neylands, Tuns, Hull, Froome, Ackerman. Et alors, ben moi, j'ai noté peut-être, mais c'est juste un souhait, en fait, Richie Taylor, s'il vous plaît, mettez-le. Pensez
Edgy, tu l'as
quoi?
dit, Edgy?
Oui.
Ok.
D'abord, en fait, vous pensez quoi? Et est-ce que ça vous plaît, cette équipe, hein?
Je sais pas trop, moi. D'un côté, ils s'encombrent de Froome, peut-être pour des raisons financières ou contractuelles, j'en sais rien. Et de l'autre côté, ils amènent des gars qu'on n'attendait pas là, mais qui ont brillé de fou cette saison. Déjà Williams dans un premier temps, et puis là, G, et peut-être Richie Tello. Alors, est-ce qu'ils sont en forme trop tôt ou qu'il y avait eu absence de concurrence, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont mis de la lumière sur cette équipe. Et clairement, ils ont fait. Bon, voilà, moi, c'est pas une équipe qui me plaît, hein, mais voilà, ils ont mis la lumière sur cette équipe, ils ont fait monter la hype. Et clairement, début d'année, j'aurais pas du tout misé sur une équipe aussi potentiellement forte, entre guillemets, autour de la France.
Romain, on est d'accord, Derek Gee, on s'y intéresse. Ce qu'il a fait au Dauphiné, c'était magnifique, mais il va pas faire un classement sur le Tour de France.
Non.
Par contre, il est peut-être très intéressant pour faire des belles étapes, et peu importe les profils d'ailleurs.
On l'avait vu dans ce cas de figure sur le Giro en 2023 d'ailleurs. Hein. Deux fois deuxième, je pense, de mémoire, ou peut-être même trois fois deuxième. Donc voilà, effectivement, une équipe où ce serait intéressant de voir des gars, et ils nous ont habitués en tout cas ces 2 dernières années, à surprendre. À surprendre. On a vu, rappelez-vous, des Hugo Hull ou des Simon Clark, je pense, hein, qui avait aussi remporté une victoire il y a 2 ans sur le Tour. Donc voilà, c'est une équipe qui, sans faire grand bruit, va sans doute surprendre.
Une équipe qui fait du bruit, parce que bah, c'est la petite équipe qui devient grande, c'est les Norvégiens, hein, de Uno X, qui viennent d'ailleurs de claquer leur première victoire en World Tour grâce à Kort. Superbe compo, je trouve. Donc je vous prends les noms. Magnus Kort, Kulseth, hein, grand espoir, Tiller, Aking, Christophe, Warren Skjold, Johannessen et Abrahamsen qui n'en finit pas de nous régaler. Ça va être showtime ou pas? Ou on s'emballe un peu trop peut-être avec une OX?
Moi, j'adore les noms, j'adore. Mais est-ce que sur un Tour de France, mais je veux dire, ils sont tous très forts et encore une fois, c'est une équipe très, très polyvalente, très complète qui peut s'illustrer partout. Mais est-ce qu'ils ne tomberont pas toujours sur le plus fort en fait? C'est toujours la même histoire. Maintenant, voilà, on les verra et clairement, il y a des noms qui peuvent me contredire ça sans hésiter, quoi.
Je te cligne un peu de la tête, Romain, je vais te poser la question. Donc, en fait, ici, Alexis, on répète un peu ce qu'on a dit avec d'autres équipes, notamment par exemple avec Cofidis. Est-ce que pour toi,
Au-dessus
Romain,
pour moi.
voilà, ça allait être ma question, est-ce que quand même, eux, ils peuvent pas, même en face à face, en gagner? Je veux dire, des mecs comme Kort ou comme Johannessen, si ça joue des échappées, dans un groupe d'échappées, ça peut être les meilleurs.
Oui, clairement, il y en a d'autres, hein.
Oui, il
Johannessen,
y en a
Warren
d'autres, bien
Skjold.
sûr.
Bon, Christophe est un peu enfin pas rouillé, il n'est pas rouillé, mais il est un peu plus vieillissant, donc ce sera plus difficile, quoique, hein, je pense que vous le mettez face à Cavendish, je suis pas sûr que ce soit le Britannique qui gagne, surtout qu'il aura un beau petit train aussi, Christophe, mais c'est clairement, moi c'est déjà une équipe que j'apprécie énormément de par sa philosophie, etc. Mais au-delà de ça, de nouveau, je me dis, qu'est-ce que cette équipe a comme intérêt? En tout cas, quels sont les objectifs que cette équipe pourrait viser vis-à-vis de ses projets à elle? C'est une équipe qu'on sait qui se développe petit à petit, etc. Au départ, je me disais, tiens, Tobias Johansen, ce serait chouette de le voir jouer le général parce qu'il pourrait venir créer la surprise. Et en fait, non. Lui aussi, c'est quelqu'un qui, dans une belle étape de moyenne montagne, a tout ce qu'il faut pour aller s'imposer. Voilà, c'est une équipe comme effectivement on a déjà cité qui peut véritablement s'imposer sur tous les profils d'étapes qu'on va de toute façon voir offensive. La seule crainte que j'ai, mais c'est, je pense pas que qu'elle soit fondée finalement, c'est que l'équipe se dise, ah, on vise la montée en World Tour, on va essayer de sécuriser des points en allant chercher une 14e place avec Johan Essen, une 17e avec Kulseth. Retenez bien Kulseth, retenez bien Kulseth. Au lieu justement de partir à l'offensive chaque jour. Parce que c'est une équipe où tu peux partir à l'offensive chaque jour et tu peux partir à l'offensive chaque jour avec deux, trois coureurs dans chaque profil. Donc voilà, c'est intéressant et c'est vraiment l'équipe qu'on attend, d'autant que c'est une équipe qui est invitée, qui. Comment, alors, ce n'est pas le cas cette année-ci, mais l'année passée, qui avait pris la place d'une équipe française, rappelez-vous, et qui avait justifié tout à fait dans les résultats et dans la façon dont elle s'était montrée sur le tour sa place. C'est encore le cas ici, j'en suis convaincu. Et donc, voilà, j'attends de belles choses et de grandes choses pour cette équipe UnoX.
Ouais, je pense, enfin, j'espère qu'ils vont pas viser un classement général, hein.
Non.
Moi, je pense qu'ils vont y aller tout le temps. Moi, ma seule petite crainte, mais c'est pas vraiment une crainte, parce qu'en plus, ce serait même logique, mais c'est un tout petit regret. J'espère que Tiller et Warren Skjold vont quand même avoir l'occasion de rouler pour eux à un moment donné. J'ai très peur qu'ils soient dévoués à Christophe. Christophe qui peut aller faire des petites places, hein, mais bon, voilà. Des mecs comme Tiller et Warren Skjold, avec ce qu'ils ont pour eux-mêmes, tu as envie de les voir rouler pour eux aussi, quoi.
Oui, peut-être juste un dernier truc, il sera pas là, c'est Leknessund. Je suis surpris. Je
Oui,
pensais
pas vrai.
qu'on allait mettre ce nom-là aussi. Mais je me dis que Leknessund, c'est peut-être aussi le genre de gars qui pourrait aller faire une 10e place sur un Giro ou une Vuelta, qui serait un peu court sur le Tour de France, et qui du coup prendrait la place de peut-être un Aiking qui irait chercher une étape en échappée. Donc c'est aussi un des signes qui me fait dire que UnoX va jouer feu d'artifice au Tour de France.
Alors, je passe à la totale énergie. Voilà, je n'ai rien à dire. Vous avez quelque chose à dire? Je suis désolé. Franchement, je suis désolé, hein, mais voilà. Voilà.
Bah, mis à part ce que, à mon avis, tu penses quand même, c'est Steph Kras, c'est simplement ça. Voilà, on est déjà content qu'il soit vivant, mais il a l'air d'être bien revenu. Après, voilà, sur 3 semaines, ça va être compliqué. Mais voilà, c'est le seul coureur qui me donne envie de suivre Total
Honnêtement,
Energy.
on va pas se mentir, Steph Kras serait pas belge. C'est parce qu'il est
Non.
belge et qu'il a montré des
Ah,
belles choses
c'est
l'année passée.
sûr. C'est
Et
sûr et
voilà,
certain.
l'année passée, il avait un super niveau, vraiment super niveau. Ça, c'est pas parce qu'il est belge, mais il n'a pas profité de ce super niveau pour tenter d'aller chercher une étape, de partir à l'avant, etc. Donc, même ça, moi, ça me frustrait un petit peu. Par contre, évidemment, c'est un plaisir de le voir juste pour le côté, et ça, c'est pas parce qu'il est belge, juste pour le côté un peu miraculé, hein, suite à sa chute.
Ouais, bah c'est vrai, ça il faut le dire aux auditeurs. C'est vrai que s'il n'était pas belge, j'aurais pas dit ça.
Mais si on était français, on aurait peut-être parlé un petit peu plus de cette équipe.
Oui, bien sûr.
De Mathieu Burgodeau, oui.
Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas évidemment quelle sera la composition, parce qu'il n'y a que Burgodeau et Kras qui sont
Ouais.
annoncés. Mais il y a plein de profils intéressants, des Emilien
Turgis.
Janière, Turgis, Jegat. C'est une
Dujardin,
équipe.
peut-être. Oui, Jegat, c'est
Voilà.
vrai, tu fais bien, j'y pensais pas. Jegat, ça peut m'intéresser un petit peu quand même, oui.
C'est une équipe qui, je trouve, réussit avec ses moyens, réussit l'après Sagan. C'était pas difficile, vous allez me dire, mais c'est quelque part, ça prouve qu'ils ont fait une erreur avec Sagan. Ça prouve aussi peut-être qu'ils ne doivent pas faire une erreur l'année prochaine en recrutant quelqu'un d'autre qui serait en fin de carrière. Voilà, je pense que si j'étais français, j'aurais envie de m'enflammer, en tout cas pour Total Energy, plus que pour peut-être d'autres équipes. Après, on vient parler du NoX juste avant. Pour moi, c'est le même profil d'équipe. C'est des équipes qui sont invitées, donc ils doivent prouver d'abord, justifier d'abord leur présence. Et c'est des gars qui vont partir à l'offensive, mais qui ont nettement moins d'atouts, malheureusement, pour eux dans leurs jambes, et donc qui seront sans doute moins souvent à l'offensive, pas par choix, mais voilà, par niveau. Et une fois qu'ils sont à l'offensive, ce sera difficile d'aller les chercher. Mais je me dis que pour tout le travail que cette équipe accomplit, et notamment, s'il n'y a rien à faire, c'est une équipe qui fait monter des jeunes de la Vendée, etc. Allez, s'ils pouvaient chercher une petite victoire là, à l'arraché, on sera content pour eux quand même, quoi.
Ouais, disons ça, allez.
Damien,
Oui.
si je peux me permettre pour faire le lien entre ce que Romain vient de dire et entre ce que tu vas dire juste après, si
Ouais.
on était français, on ferait peut-être avec Total ce qu'on va faire juste maintenant avec la prochaine équipe que tu vas annoncer.
Non, parce que la prochaine équipe, franchement, la prochaine équipe, j'ose espérer qu'elle intéresse quand même les Français. C'est pas
Il
du
y a...
chauvinisme de dire quand même qu'il y a des mecs beaucoup plus intéressants. Donc on va parler de la Lotto Destiny.
Ouais.
Pour moi, c'est pas du chauvinisme de dire qu'il y a quand même quelques. Alors, je dis pas que la compo totale sera extraordinaire, j'en sais rien, mais il y a quand même des noms qui font partie maintenant des top coureurs du peloton. Mais moi, j'allais vous le dire en fait. Donc, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Lotto Destiny, évidemment, puisqu'on va plus s'étendre là-dessus quand même que sur Total. Faites-moi rêver. Allez-y, dites-moi, promettez-moi les victoires de Maxime Van Gils, promettez-moi une victoire pour Arnaud Delis, promettez-moi peut-être le maillot jaune pour Maxime Van Gils, je sais
Voilà,
pas.
à Rimini, tout à
Voilà,
fait.
ok,
C'est
je
possible,
prends.
hein?
Qu'est-ce que tu offres de mieux, Alexis?
Le
Un
maillot
maillot
vert
vert à
pour.
la fin aussi pour Arnaud Delis ou.
C'est ce que j'allais dire, ouais, le maillot vert
Parfait,
d'Arnaud
je prends
Delis.
aussi.
Les deux
T'as
contre la
plus
montre pour
sérieux.
Campenaerts.
Ouais. Ça, là, on commence à perdre en
Ouais,
crédibilité.
ouais.
Non, mais plus sérieusement, même si c'est des choses qui ne sont pas totalement impossibles, allez, des attentes pour la loto. Pas un tout petit peu déçu par Maxime, ce retour de Suisse? Non, ok. J'ai pas bien su suivre, hein, mais je m'attendais peut-être à plus de flamboyance de Van Gils sur ce tour de Suisse. Donc, voilà.
Déçu,
Mais.
non, pas forcément, mais ça me fait dire que on le verra peut-être moins sur ce tour que ce qu'on l'a vu depuis le début de l'année. Mais bon, on verra.
Ce serait pas illogique dans la mesure où le gars est quand même encore très très jeune et il a fait un printemps fantastique hein, de très très loin. Donc, moi, sans rigoler ici, moi j'en fais un des candidats sérieux au maillot jaune à Rimini, pas à Paris,
Oui,
hein, mais à Rimini.
après la première étape, donc.
Parce que c'est quelqu'un qui a l'explosivité, qui est très rapide au sprint. Rappelez-vous, il a quand même été gagné des classiques World Tour, je ne vais pas dire sur un sprint massif, mais pas loin, avec une science de la trajectoire et de ce sprint assez incroyable pour quelqu'un qui, à la base, est un puncheur, voire même par moments un grimpeur. Tu demandais si j'étais inquiet pour lui après son tour de Suisse? Non. Il l'a dit, il n'a pas eu les résultats qu'il aurait pu espérer. Mais les jambes étaient très bonnes, les sensations étaient très bonnes, et c'est ça l'essentiel. Et je crois qu'il était vraiment là en préparation. C'est évidemment quelqu'un qu'on va pas voir jouer le général. Personne ne va jouer le général chez Lotto Destiny, ils sont pas fous. Mais c'est quelqu'un, de nouveau, qu'on va voir à l'offensive 3-4 fois sur ce tour. Moi, je verrais bien Maxime Van Gils sur le podium à Paris en tant que super baroudeur, par exemple. C'est voilà, quelqu'un que je verrais bien partir 4-5 fois pour jouer la gagne. Peut-être qu'il l'aura jamais une seule fois, mais qu'il sera pas loin. Et c'est vrai que l'autre grand nom entre guillemets de cette équipe, c'est Arnaud Delis. Je serais plus réservé parce que c'est un nom qu'on va peut-être plus attendre assez curieusement, même si ses résultats sont un peu moins bons que ceux de Van Gils depuis le début de la saison. Mais c'est clairement un profil qui sera attendu sur les sprints massifs, alors que c'est pas forcément là qu'il a le plus de chances de l'emporter. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il va sur ce tour pour apprendre. Alors, s'il prend une victoire, évidemment, on va pas s'en plaindre. Mais si voilà, si ne fait que des troisième ou quatrième places dans les sprints massifs et qu'il ne fait entre guillemets rien d'autre, on va vite taxer de lui d'un Tour de France raté. Ce sera, je pense, injuste. Le gars est très jeune, ce sera son premier grand tour. Il faut que. Et puis, il sort d'une saison, on l'a dit, un peu compliquée. Donc, il est là pour grandir. Faudra voir aussi quelle sera l'équipe à côté de lui. Hein. On sait qu'un des problèmes de Delis, c'est le placement. Et dans la première semaine, on sait que le peloton est toujours très, très, très nerveux, notamment pour les premiers sprints massifs. Et là, il faudra voir si un De Beust est là, si un Van Moor est là, voir dans quelle mesure ces gars vont pouvoir, dans tout ce peloton dense, se frayer un chemin pour amener Delis bien placé aux 500 mètres. Et ça, voilà, j'y crois moins. Donc c'est pour ça que j'ai plus d'attente pour Van Gils que de Lee dans cette équipe.
Ouais.
Ok.
Ouais, Romain, tu dis, moi je demande à être surpris, j'ai envie de dire
Ah,
ça
ça
pour
m'intéresse que je dise
rigoler.
Romain a tout dit, parce que j'allais quand même te poser une question, Alexis,
Dis-moi, ouais,
mais qui
peut-être
vaut pour
que.
toi aussi, Romain. On parle sprint massif. Il n'y a pas une ou l'autre étape où vous le
Si.
voyez prendre les devants?
Bref, on peut
Essayer des choses,
l'envisager.
soit prendre les devants, soit une étape un peu plus difficile où il resterait avec les meilleurs et où les sprinters sauteraient. Donc,
On
pas
peut
une étape de sprint massif, quoi.
l'envisager à l'étape de 3, même si on peut quand même facilement envisager les coureurs du général faire quelque chose et donc Delis impossible à suivre. L'étape 8 que je promettais à Matthews, ben clairement, on peut l'envisager pour Arnaud Delis. On peut aussi envisager l'étape 10 avec l'auto qui viendrait un petit peu durcir la course pour faire reculer certains sprinteurs. Maintenant, voilà, sur les sprints massifs, notamment dû au placement, j'ai du mal à l'envisager. Maintenant, c'est vrai qu'en regardant certaines courses un petit peu plus accidentées, il n'y en a pas énormément. Mais sur ces courses-là, un petit peu plus dures, où la résistance jouera, là, en effet, il peut aller s'illustrer. Mais je ne vais pas me mettre d'attente incroyable pour Arnaud Delis, parce que c'est son premier tour, il sera face au tout, tout meilleur. Je ne sais pas qui sera, voilà, imaginons un Van der Poel, même si je ne l'attends pas là, voire même un Van Aert qui vient faire le même rôle que lui. Est-ce qu'il arrivera à ses fins? Je ne sais pas, j'attends de voir.
Je vais essayer aussi alors de pas trop m'emballer. Non
Et
mais
Pedersen,
bon.
évidemment. Enfin, bref, vous avez compris l'idée.
Mais surtout que, enfin, tu vois, allez, si Delis prend l'échappée, qui va rouler en sachant qu'il y a Delis avec lui, quoi. Alors après, on est sur le Tour de France, donc voilà. Mais de façon un peu provocatrice, j'aurais eu envie de dire que la meilleure chance de Delis sur ce tour, ça aurait été les Champs-Élysées. Pas de bol. On les zappe cette année. Mais
Ouais, c'est vrai.
voilà, ce serait intéressant de voir son état de forme sur les étapes de plat, peut-être dans une seconde partie de Grand Tour, parce qu'en première partie, il est un cran en dessous, peut-être de par sa rapidité, mais surtout, je dis, de son placement et de son train vis-à-vis des grosses cylindrées. Et donc, une fois que le train de Cavendish aura pété en montagne, que celui de, je sais pas moi, de, bah, y a que celui-là finalement. Mais non, non, mais enfin, je veux dire, voilà, ce sera vrai. Je suis très curieux. Effectivement, je rejoins Alexis, je demande qu'il ait été surpris.
Ouais.
Moi, un truc. Alors, d'abord, j'ai très peur que sur 3 semaines, il chute. Très, très peur. Donc, d'abord, on va souhaiter que ça se passe bien. Et alors, si ça se passe bien, je suis très curieux de voir dans quel état de fraîcheur il peut terminer. En dehors de victoire ici, etc., de voir comment il peut terminer un grand tour.
Et à noter qu'on adore tous les trois ici l'auto, et il y a énormément de noms qu'on adore, mais à l'heure actuelle, sur la startlist, on ne connaît pas encore, mis à part Van Gils, Kampenaert et Delis, on ne connaît pas encore la sélection. C'est pour ça qu'on n'est pas plus complet que ça sur l'auto.
Mais voilà, je pense qu'on a fait un beau long épisode.
Ouais.
J'espère que tout le monde aura apprécié nous écouter un peu sur tous. Mais on avait la volonté voilà, de pouvoir parler un peu de tout le monde. Alors, bon, tout le monde, voilà, mais de se projeter un peu sur autre chose que le tour, la bagarre pour les favoris, qu'on va donc aborder dans un prochain numéro. Mais messieurs, je vous remercie pour le temps passé à celui-ci. Je vous dis à très bientôt pour le suivant
À très
et à vous
bientôt.
tous qui nous écoutez, à très bientôt également.
Ciao,
Merci et à bientôt.
ciao. Salut,
Ciao.
salut.
Ciao, ciao.